toujours voulu savoir ce que c'était exactement que le cinéma.
Les films sont plus harmonieux que la vie, Alphonse. Il n'y a pas d'embouteillage dans les films, il n'y a pas de temps mort.
Tous les cinémas du monde. Tous les cinémas du monde. Elisabeth Le Quéret, Sophie Torlotin.
La beauté de la jeunesse, le soleil et l'ombre, les vérités et les secrets, l'amour et le désir. Dans un verger de figuiers, des jeunes gens, garçons et filles, tous travailleurs saisonniers, ramassent les fruits et tout en cueillant, ils bavardent, flirtent et se disputent. Bonjour Sophie.
Bonjour Elisabeth, bonjour à toutes et à tous.
Et merci de nous rejoindre dans cette émission qui nous entraîne au nord-ouest de la Tunisie avec notre invité Erige Seiri. Bonjour.
Bonjour.
Sous les figues, votre deuxième long-métrage sort en salle mercredi prochain. Sélectionné à Cannes dans la section quinzaine des réalisateurs, il a fait le tour du monde des festivals, Bayard d'or du meilleur film à Namur, Grand Prix du long métrage à Tübingen et bien sûr Tanit d'argent aux journées cinématographiques de Carthage, Namur, Tübingen, Tunis et bientôt peut-être Los Angeles puisque Sous les figues est le candidat tunisien à l'Oscar du meilleur film étranger.
تبهزتي ما قال بين وجهك يا اخي تتبهزي كي تعرفي تتلبقي قولي نعرف نتلبق باش تدير تضحك عليك
لا مانيش فارع كان انت عم تراقي ما قدرني ما عم باليش بحتى حد.
La bande-annonce de Sous les figues avec les voix de Ameni Fdili, Samar Sifi, Feten Fdili, sans oublier Fide Fdili. C'est elle, je crois, Erige Seiri, qui vous a donné les premières notes de ce film. Racontez-nous.
Oui, je l'ai rencontrée devant un lycée. Elle se disputait avec une copine et moi j'étais en train de mettre des posters pour lancer un casting dans la région. Et cette dispute que j'entends juste à l'oreille, voilà, c'est les premières notes que j'entends. Je me retourne et je la vois et c'est comme un petit coup de foudre parce que elle a comme ça, à part le physique, elle avait une force en elle comme ça. Et je lui demande ce qu'elle fait. Et elle me dit bah je suis au lycée et après le lycée je fais la récolte des cerises parce que c'était encore le mois de juin. Et là, voilà, elle vient au casting, je la rencontre, je la découvre et je vais avec elle dans ses champs de cerisiers. Et là, je vois comme une sorte de photographie instantanée de cette espèce de jardin d'Éden qui finalement est un faux jardin d'Éden aussi.
Mais alors, du cerisier à Sous les figues, il y a un long, long chemin.
Oui.
Et entre autres, il y a un scénario qui n'est pas tout à fait un scénario. Mais comment vous avez travaillé? Parce qu'on entend ces jeunes femmes, ces jeunes hommes. On a l'impression qu'on n'a jamais vu des jeunes Tunisiens filmés comme ça et qu'on les a surtout jamais entendus comme ça.
Oui, c'est vrai qu'il y avait une musicalité dans leur langage. En plus, c'est un patois, c'est comme les patois de campagne. Ils ont un accent particulier, un humour particulier. Ils ont même un langage très particulier. Et on l'entend très peu dans le cinéma arabe, le cinéma tunisien. Mais surtout, ce qui m'intéressait, c'était les petits bavardages entre eux, ces espaces de liberté qu'ils arrivent à trouver dans un espace aussi fermé qu'un verger, finalement, même si c'est en plein air. Et il y avait l'idée d'une chorégraphie humaine qu'on allait raconter en leur donnant à la fois des directives assez précises sur les scènes, mais beaucoup de liberté dans les dialogues et donc de l'improvisation aussi.
Mais justement, au début, bon, j'imagine que eux, alors là je parle des cerisiers, pas encore des figuiers, ils sont en train de travailler, donc ils sont peut-être concentrés. Vous les avez approchés, j'imagine, sans caméra.
Oui, sans caméra.
Mais comment ça s'est passé?
Oh, c'était. Je leur posais des questions. Je suis d'abord allée voir le contremaître pour lui demander si c'était OK que je parle avec les travailleurs et les travailleuses. Il m'a dit bien sûr. J'avais pas de caméra, j'avais rien. J'avais un petit appareil photo quand même parce qu'il fallait que je prenne. Enfin, j'avais envie de prendre des photos. Ils m'ont laissé prendre des photos. Ça a été les premiers pas vers mes premiers repérages. L'idée d'un scénario, pas encore, mais en tout cas des images en tête. Et ça a commencé comme ça. Et une lumière.
Une pause musicale dans tous les cinémas du monde, mais on reste dans l'ambiance de votre film, Erige Seiri, avec Dima Dima de Noor Arjoun, une version spécialement enregistrée pour votre film.
ليهبط عالحجر يذوب اللي رشليهم حفايا واللي تعبوا بالمكتوب نحلف بمين البحارة بالشمس والريح والصحاب نحلف بالموجة الغتارة لا لا على حبك منتوب لا لا منمل من صعبك علي نكتب اسمك بالدم في ايديا ونرجع لك ديما 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 مهما زرعوا لي الشوك في الثنية مهما ليا حب تهرب بيا ونرجع لك ديما 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 ونسقي زرعك بدموع عينيا مهما خنتيني انت عزيز علي
Bien sûr sur RFI avec notre invité Eric, c'est Eric qui nous entraîne dans le paradis vert, mais peut-être est-ce aussi une forme d'enfer, celui d'un verger de figuier. Donc unité de lieu, unité de temps, donc on suit une journée dans la vie de ces jeunes saisonnières et saisonniers. Vous l'avez conçu tout de suite, ça s'est tout de suite formé comme un huis clos sous les figues.
Oui, parce que tout de suite il y avait cette idée de comment cette jeunesse s'accapare des espaces de liberté dans un espace enfermé et comment on peut être enfermé tout en étant à l'extérieur. Donc il y avait tous ces questionnements sur à la fois les libertés, l'enfermement et de jouer sur ça. Et puis voilà, puis cette idée d'image instantanée que moi j'ai vue la première fois lorsque je les ai vus travailler, il y avait voilà, quelque chose comme ça qui visuellement, je me disais on ne devrait pas sortir de cet endroit-là, tout devrait se passer ici.
Mais c'est quoi cette image qui vous a attrapé?
Ouais, c'était comme une peinture. C'était, il y avait des jeunes hommes qui parlaient avec des filles sous les arbres, des messieurs dans les arbres qui travaillaient, des cagettes par terre. Il y avait quelque chose comme ça de très beau. Une image qui m'est restée en tête. Et là, il y avait voilà, cette idée de comme, presque une peinture impressionniste quand même, comme ça, qui m'a inspiré cette idée de huis clos à ciel ouvert.
Et Erige Seyri, vous disiez que vous étiez d'abord, vous aviez fait les premiers pérages dans un verger de cerisier.
Oui.
Là, ici, on est sous les figuiers, enfin, même si le film s'intitule Sous les figues. Alors, pourquoi? Est-ce que c'est purement, il y a un déplacement parce que vous avez tourné pendant la saison des figues ou est-ce que ça évoque d'autres choses? Pourquoi les figues?
Oui. Pourquoi les figues? Bien sûr que ça évoque déjà des choses. Mes grands-parents avaient des figuiers. Les cerisiers, c'est plus rare dans nos pays déjà. Les figuiers, c'est plus. Puis c'est comme l'olivier. C'est un arbre qui est dans la Bible, dans le Coran. C'est un arbre comme ça, sacré presque. Et puis c'est un fruit très fragile. La figue, elle peut brûler les doigts si on s'y prend mal. Et l'arbre, pourtant, est très robuste. Donc je trouvais que ça allait avec cette idée de ces personnages, de ces femmes aussi, qui ne sont pas mûres en même temps, comme les figues aussi, qui, dans un seul arbre, ne mûrissent pas au même moment. Voilà, il y avait tout ça, et puis les histoires que mon père me racontait, ma grand-mère. Et en plus, ça tombait bien, parce que les figues mûrissent à la fin de l'été. Donc on est au retour au lycée, et le film se situe justement la veille de quelque chose qui allait changer, c'est-à-dire la fin de l'été, la fin d'une récolte, et le retour à une vie normale, à l'école, au lycée. Donc j'aimais bien cette idée de fin de quelque chose.
Ah, j'ai une chute stand là. Les tracteurs, je suis. T'as des choses jamais là.
Ça n'en capte une dernière. T'as oublié les marques, mon chef.
Chef.
Racontez-nous ce qui se passe dans cet extrait de votre film Érige Séhéri. On entend le crissement très particulier des feuilles de figuier. Ce qu'on n'a pas dit, c'est que justement le fruit est très fragile et très doux, mais la feuille est très urticante et c'est presque comme de la feuille de papier émerie.
Oui, tout à fait. Il y a ce son qu'on entend comme ça dans le film, qui fait partie d'ailleurs aussi de cette musicalité dans le film. Et cet extrait, c'est Abdou qui revient travailler après 5 années. Il a quitté le village et il débarque ce jour-là pour travailler, reprendre le travail. Et il vient pour autre chose en réalité. On le découvre après, plus tard dans le film. Et il revoit donc une de ses amies, Fidé. Et ils ont cet échange sous les arbres pendant qu'il travaille, pendant qu'il cueille ses figues. Elle lui raconte un peu comment ça se passe ici. Donc elle lui donne un peu le contexte. Elle lui parle des chefs, des gens avec qui elle a travaillé. Et en même temps, il y a cette ambiguïté. Alors pourquoi il pose des questions sur elle? Est-ce qu'il est intéressé par elle? Ou est-ce que... quelle est la vraie raison de son intérêt, de toutes ces questions? Et j'aimais bien ce jeu derrière les arbres, où il monte, il redescend, il monte dans l'arbre, il redescend. Et en même temps, ils ont ce dialogue tous les deux. Et c'est très beau, c'est très sensuel aussi.
Et justement, Abdou, lui, il est un peu particulier parce qu'il arrive de Monastir. Oui. Donc, il a eu la vision d'une ville un petit peu plus moderne. Voilà. Il apporte une lumière différente, enfin une énergie différente dans ce figuier. Comment vous avez travaillé avec eux? Parce qu'en fait, on est vraiment à la lisière du doc.
Oui.
Alors, ils sont vraiment en train de ramasser. C'est des acteurs non professionnels.
Oui.
Ils sont vraiment en train de ramasser ces figues.
Oui.
Donc, c'est une drôle de chorégraphie quand même de les suivre dans les arbres, sous les arbres.
Ça a été le choix de la mise en scène, parce que faire tout un film d'une heure et demie sous les arbres, si on était resté statique, et puis ça n'avait aucun sens, puisque c'est une récolte, ce film. Et donc, il a fallu qu'ils travaillent en réalité. Bien sûr, c'était dans les scènes. Hein, en dehors des scènes, ils ne travaillaient pas. Mais quoique, parfois, je leur demandais de se préparer un peu et de travailler quelques minutes avant le début de la scène pour qu'ils se remettent dedans. Mais oui, il y avait... Donc c'est pour ça que ça donne l'idée d'un documentaire, parce qu'en fait, c'est des gestes tellement naturels et c'est des gestes du travail. Et quand on voit gestes du travail, on se dit que c'est un documentaire. Mais en réalité, les dialogues et les scènes, elles, étaient complètement écrites. Mais par ces gestes si naturels, tout d'un coup, le rythme du film devient plus proche de la vie que d'un film, en réalité. Donc c'est pour ça que ça... Mais c'était très intéressant, parce que en plus, entre répétition et tournage, il n'y avait pas vraiment de différence. Ils portaient les mêmes costumes, on était dans le même endroit, dans le même lieu. Lorsqu'on faisait des pauses de repas, on mangeait aussi dans le verger. Donc il y avait un prolongement de la vie et des répétitions et du tournage. Donc ils étaient tout le temps dans un espace flou, eux, les acteurs. Ils ne savaient pas vraiment si à ce moment-là, quel enjeu.
La caméra était sur eux ou pas?
Oui.
Mais comment on fait dans ces cas-là quand c'est des non-professionnels? Donc j'imagine qu'on ne leur donne pas un scénario à lire et puis des répliques à donner. Donc,
oui.
Alors sans comprendre l'arabe, on a quand même le sentiment qu'ils sont dans un grand naturel.
Alors oui, donc par contre, ils savent quand est-ce qu'on tourne, parce que la caméra est tellement énorme et qu'en plus, il y a 2 perches de son, donc ils savent exactement quand est-ce qu'on tourne, mais ils ne connaissent pas l'enjeu de la scène vraiment, parce que je leur dis qu'on répète en fait des choses. Et comme on refait les scènes énormément de fois, c'est-à-dire qu'ils ne savent pas quelle prise on va prendre, quel est l'enjeu de cette scène vraiment, puisqu'on peut par exemple la scène du repas la répéter pendant une semaine. Et là, dans cette scène-là, il y a une première écriture. Moi, je ne leur donne pas un scénario écrit, je leur donne à l'oral seulement, avec leur langage, leur patois aussi à eux. Et le contexte de la scène, le personnage, certains éléments du dialogue. Et puis, je leur dis qu'ils peuvent... Ils peuvent aller ensuite ailleurs, mais en restant dans la scène. Donc, c'est très particulier. C'est un peu, on travaille un peu aussi comme dans le théâtre, sauf qu'ils n'ont pas un texte, un dialogue à écrire, à lire, pardon, et à apprendre par cœur. Parce que je crois que là, ça les aurait stressé beaucoup d'apprendre ce texte. Et donc, voilà, l'idée, c'était comme ça. Et on faisait des allers-retours entre écriture, improvisation, répétition. Et voilà. Et on aboutissait à un moment donné à la scène que j'attendais.
Mais pour le cadre aussi, il n'y avait pas des scotchs, des sparadraps pour leur dire comment se placer ?
Oui, bah non, ils avaient pas, ils devaient travailler. On savait qu'il y avait plus de figues là et là, donc on allait se déplacer. En tout cas, l'arbre était notre lieu de déplacement.
Et vous choisissiez l'arbre ?
Oui, tout à fait.
Avant oui, de tourner une séquence.
On choisissait les arbres. Oui, tout à fait. Pour ça, je dis, des fois, on a fait aussi le casting des arbres parce que c'était important à quel arbre on allait tourner et comment on l'essayait avec la chef opératrice. Hein, elle effleurait les arbres, vraiment, pour savoir si elle pouvait se positionner, monter la caméra ou pas, est-ce qu'elle pouvait passer en dessous ou pas. Enfin, et dans les répétitions, ben, on voyait en fait, les contraintes du tronc d'arbre ou des branches et on refaisait le film. Donc à la fois, c'est pour ça que je dis que c'est très chorégraphique ce film, puisqu'à un moment donné, elle apprend les mouvements aussi des acteurs. À force de refaire la scène, ben, il va remonter, il va redescendre, elle va apprendre ces mouvements-là et elle va le suivre.
Oui, parce qu'il y a des circulations entre les jeunes gens, il y a un côté carte du temps. En fait, ça raconte aussi beaucoup de la jeunesse, et pas que de la jeunesse, parce qu'il y a aussi différentes générations dans ces saisonniers.
Oui. Ça raconte le lien, surtout, le lien entre ces générations.
عايش فلوسي ربي يخليك ليا نعرف كيف تخرج الصبح عبده ما خد هنا ولا في نستي
le moment de la pause déjeuner. Dans le verger. Donc là, on s'aperçoit qu'effectivement, on ne dit pas du tout les mêmes choses que selon qu'on est à deux, un peu caché par les arbres ou dans le groupe.
Oui.
Mais ce qui frappe dans votre film, c'est que les femmes, en tout cas les jeunes femmes, peut-être qu'on parlera effectivement tout à l'heure d'il y a plusieurs générations, mais en tout cas les jeunes femmes, elles sont très modernes.
Oui,
elles ont des idées elles sont bien déterminées et puis elles ont même des stratégies en fait, pour conduire leur vie.
Oui, elles sont profondément modernes, c'est ce que le film raconte. Je pense que si on regardait Claire Ecolt, ça pourrait se passer il y a 200 ans, mais quand on les voit elles, on sait que ça se passe aujourd'hui.
Mais c'est ça qui est fou. C'est ça qui est fou.
Oui, elles ont la parole libre surtout. C'est-à-dire qu'elles sont limitées dans leur liberté. En réalité, on le sent bien. Elles viennent d'un milieu conservateur. Elles ont très peu d'opportunités dans leur vie. Aussi des contraintes économiques.
Alors c'est qui d'ailleurs ces filles ? C'est parfois des étudiantes. Et parfois, elles sont là pour payer leur mariage ou aider leur famille, en fait.
Dans la vraie vie ou dans le film ?
Ah, dans la vraie vie.
Mais quoi que ça ressemble. Oui, souvent, les jeunes filles qui travaillent dans les champs, bah oui, elles viennent pour aider leur famille. Souvent, comme c'est pour mettre un peu d'argent de côté pour leur mariage. Donc, c'est déjà cette idée que le mariage est la solution à leur avenir. Et c'est pour ça qu'il y a ce moment de discussion entre les deux filles où elle lui dit « tu devrais penser à tes études au lieu de penser au mariage ». Et donc on sent que ça commence à changer chez certaines d'entre elles. Ce n'est pas le cas de toutes. Mais oui, on a repris en tout cas tous ces éléments que moi j'ai écoutés dans la vie de ces femmes et on l'a reproduit dans le film.
Vous avez eu le sentiment de filmer une génération ?
Oui.
Une nouvelle génération ?
Oui, une génération de la pré-révolution dans le sens où la parole est complètement libérée et pourtant elle ne parle pas révolution, ne parle pas politique du tout, elle ne s'en intéresse même pas. Et donc ça dit beaucoup de choses en fait, ce non-dit-là aussi.
Qu'est-ce que ça dit ?
Ça dit qu'elles sont aussi quand même comme dans une bulle, dans leur campagne, retirées du monde extérieur et en même temps extrêmement connectées au monde extérieur à travers leur téléphone portable. Elles savent ce qui se passe ailleurs, elles ont des rêves et des espoirs communs à toutes les autres jeunes filles dans le monde. Et en même temps, elles sont aussi limitées dans tout cet espace-là. Donc ça raconte ça. Et c'est un film à la fois doux et plein d'amertume. Donc il y a de l'espoir et il y en a plus aussi quelque part. Hein, en tout cas, à travers justement les générations plus anciennes, on sent qu'il y a un abandon. Elles ont un peu abandonné leurs rêves.
Mais justement, Sophie parlait tout à l'heure de l'autre génération, parce qu'en fait, ce qui frappe dans votre film, c'est qu'il n'y a pas de génération intermédiaire. C'est-à-dire, ouais. Il y a ces très jeunes femmes, elles ont quel âge ?
Entre 17 et 18, 20 ans.
Voilà, et puis il y a Leila, alors, qui est un peu la gardienne du temple. Alors elle est beaucoup plus âgée. Elle pourrait être leur mère, voire leur grand-mère,
oui.
Carrément.
Oui.
Et donc elle garde le verger, au besoin elle dénonce les voleurs, et c'est un miroir un peu glaçant. Pour ces jeunes filles, est-ce qu'elle incarne une autre génération, une autre époque, une autre Tunisie, Leila ?
Oui, parce que quand elle fait de la délation, à part...
Leila, c'est la nuit en arabe, donc déjà, elle a un nom un peu...
Oui, c'est vrai. Et elle le dit, l'amour m'a endurci, l'amour, le manque d'amour, en fait, c'est pas l'amour, parce qu'elle dit l'amour m'a endurci, elle dit pas le manque d'amour m'a endurci. Dit l'amour m'a endurci. Et les filles en rient d'ailleurs dans le film. Alors, mais c'est pour ça que t'es si dure ? Et elles en rient. Mais oui, justement, je crois que c'était cette idée. Parce que la génération intermédiaire n'aurait pas donné cet effet-là de miroir. J'avais vraiment envie qu'il y ait cette idée que Fideh pourrait devenir Leila, mais qu'en même temps, Fideh parle différemment de Leila. Et qu'elle est d'une autre génération. Et donc, il y a cet espoir que peut-être elle ne vieillisse pas avec autant d'amertume que Leila. Parce que Leila, elle en a beaucoup. Dans la scène où elle chante et elle pleure, par exemple, on sent...
C'est un très beau personnage.
Oui, toutes ses souffrances, sans qu'elle ait besoin de parler trop. Et en même temps, cette génération de la délation, ça, on sent bien que c'est la génération précédente, la génération de la dictature, la génération où il y a des mécanismes de délation, de corruption, de prendre plus d'argent que les autres parce qu'on va pouvoir rapporter ce qui se passe. Et ça existe encore et c'est souvent... on le voit dans les anciennes générations plus souvent, je trouve.
C'est peut-être aussi la génération des femmes qui se sont laissées faire, qui ne pouvaient pas se révolter. Il y a quand même la figure aussi du chef, qui est un jeune chef, qui est un héritier, et qui se sent tout droit, toute possibilité d'exercer même un droit de cuissage.
Oui, et puis tout le monde l'appelle chef, personne ne l'appelle par son prénom. Même Leila, qui est beaucoup plus âgée que lui, qui en connaît un rayon sur le travail... beaucoup plus que lui, ils répètent même le mot chef énormément dans leurs phrases. Ça aussi, c'est des mécanismes.
Ça, c'est ce que vous aviez observé ?
Oui, j'avais observé ça. Ouais. Et puis, le chef, par contre, a son prénom sur sa voiture. Donc, ça me rappelle un peu les footballeurs qui mettent leur prénom sur les plaques d'immatriculation.
Ou les cinéastes sur leur fauteuil ?
Oui.
À Hollywood ?
Oui, il y a ça, tout à fait. Donc, c'est cette idée que lui, il veut être connu partout dans la région en inscrivant, en gros, son prénom sur le capot de la voiture. Mais par contre, au travail, on l'appelle chef, quoi.
Et il a droit de quasiment de vie et de mort. J'exagère à peine, mais enfin, comme c'est lui qui choisit qui peut travailler ou pas.
Oui, mais en même temps, je trouve que les travailleurs, elles s'expriment aussi, puis quand elles ont envie de lui dire quelque chose, elles lui disent, et on sent bien que ça lui échappe aussi quand même quelque part, et que cette nouvelle génération ne va pas se taire aussi facilement que Leila, par exemple. Et d'ailleurs, Malek, à un moment donné, lui dit « je ne reviendrai pas demain ».
C'est ça aussi qui est porteur d'espoir ?
Oui,
quand
bien
vous
sûr.
Disiez,
ouais. De tant de générations qui ont accepté des conditions... que la nouvelle génération n'accepte pas. Et d'ailleurs, il y a de moins en moins de jeunes qui travaillent d'ailleurs dans l'agriculture. Là, ils sont dans cette région, ils n'ont pas le choix. Mais les jeunes filles ne se taisent plus maintenant.
La génération MeToo, c'est ça ? MeToo aussi, donc ce mouvement mondial de libération de la parole des femmes.
Oui, peut-être. Mais après, elles ne sont pas dans ça. Je pense que c'est pour ça que je dis qu'elles sont vraiment dans une bulle, parce qu'elles ne sont pas dans ces débats, en fait. Et je ne sais pas comment expliquer ça, c'est-à-dire qu'elles n'analysent pas le débat de MeToo à l'international, etc. Elles ne vont pas suivre ça de cette manière-là, mais elles sentent que les choses sont devenues possibles et que maintenant, il y a quelque chose qui a changé. Après, quand évidemment ce chef qui regarde les filles comme des fruits, et donc il pense pouvoir en faire ce qu'il veut, quand il essaye de se rapprocher de Malek, après, elle ne va pas non plus crier sur les toits. Donc on sent bien aussi qu'il y a quelque chose encore... de très présents, de non-dits qu'elles ne peuvent pas exprimer. Et même, il y a encore cette normalité presque même d'un quotidien où tous ces drames de cette journée-là sont des drames du quotidien et donc deviennent quelque chose de normal, en fait. Et
il est là le drame. Comme une tapisserie, comme une toile de fond, en fait.
Oui, comme une toile de fond. Et il se trouve que là, il est là le drame.
Et vous disiez, les jeunes filles ne se taisent plus. Ça veut dire qu'il y a 10 ans, vous auriez fait un film complètement différent ?
Oui. Oui, je pense. Enfin, je pense que...
Les gens étaient très différents. Enfin, les jeunes gens.
Oui, je crois qu'elles n'auraient pas pu s'exprimer de cette manière-là face au chef, ou même parler des garçons comme ça, devant les hommes, parler des hommes de cette manière-là, parce qu'elle critique aussi l'autre génération. Elle parle des hommes et des femmes. La scène de Fidèle, notamment, elle dit « Vous êtes tous des hypocrites. Toutes les femmes, à un moment donné, ont vécu des amours, des flirts, des relations. » Elle va même jusqu'à dire des relations intimes. Je pense que c'était beaucoup plus compliqué à exprimer il y a 10 ans ou il y a 15 ans.
Et les garçons, on parle beaucoup des filles, hein, bien sûr, mais les garçons se livrent incroyablement dans votre film. Comment vous... Enfin, c'est pas évident, parce que bon, j'imagine qu'après, il y a votre travail de scénariste. Enfin, voilà, tout est amélioré, amendé. Mais quand même, au départ, vous êtes partie d'un matériau brut.
Oui, mais moi, je dirais que les garçons se sont exprimés plus facilement dans leur rôle dans le film que dans la vie. Alors que les femmes, les filles, se sont déjà exprimées avec moi en dehors du film, ce qui m'a permis d'écrire le scénario. Alors que les garçons étaient beaucoup plus fermés à s'exprimer sur ce qu'ils sont vraiment en dehors du tournage. Et donc le tournage et le film a été pour eux un espace d'expression où ils ont pu se cacher derrière le rôle, un peu. Et ça, c'était intéressant, parce qu'on a toujours l'impression que c'est... surtout dans nos sociétés, les sociétés arabes, on pense toujours que la parole des hommes est plus libre, mais en fait, non, la parole des femmes est plus libre. Et ça, je trouve que c'était intéressant.
Justement, par moments, les filles entraînaient les hommes, ou il y avait des effets comme ça ?
Dans le tournage, oui. Entre les acteurs ?
Oui.
Oui, 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 oui. Bah, par exemple, le rôle de Firas, je l'ai rencontré dans un café, il est chômeur, il est extrêmement timide. Quand je l'ai approché, il me dirait qu'il n'y arriverait jamais, qu'il ne peut pas, certainement pas jouer dans un film, et qu'il n'a rien à dire, et qu'il ne peut pas apprendre un texte. Enfin, il était très négatif, en fait. Alors que les filles, elles les ont portées. Quand les garçons ont rencontré les filles, elles ont été un... vecteur de ce film, elles les ont ramenées vers elles, elles ont joué avec eux les scènes aussi, elles les ont poussées à donner plus. C'était incroyable, vraiment c'était assez incroyable. Après, il y a eu des scènes plus compliquées à tourner, comme une scène où une des filles se fait agresser dans le verger. Là, elle me dit « mon cœur bat très très fort » et je lui demande pourquoi. Elle me dit « je ne sais pas, mon cœur bat tellement fort quand je tourne cette scène ». Et je découvre plus tard que ça lui a rappelé un moment qu'elle a vécu. Et donc là, le film devient pas juste un film, mais un espèce presque une thérapie de groupe où chacun allait aussi ressortir un peu ce qu'il avait gardé à l'intérieur de lui à travers le tournage.
Il y a quelque chose de passionnant justement dans le film, alors entre les filles et les garçons, mais surtout entre les filles, il y a une espèce de rapport entre la... On est toujours dans un battement entre la rivalité et la solidarité, j'allais dire la sororité.
Oui, parce que j'ai l'impression que c'est comme ça dans la vie en général. Et c'était comme ça tout le temps. C'est vrai, tout le film, il y a la rivalité entre les filles, garçons-filles. Et finalement, à la fin, elles montent dans le camion. Mais moi, ensemble. C'est-à-dire qu'il y a un destin commun, finalement. Il y a ces destins individuels. Et puis, finalement, le destin commun l'emporte un peu encore. Dans la campagne, cette idée qu'on est plus forte quand on est ensemble. Et surtout les femmes. Comme si les femmes avaient besoin d'être entre elles. Pour s'en sortir. Alors que, je sais pas, j'ai l'impression qu'il y avait cette idée que les hommes ont besoin des femmes, mais que les femmes ont vraiment surtout besoin des femmes. Je sais pas, en tout cas, c'est ce que j'ai ressenti en passant du temps avec elles, et c'est ce que j'essaie de retranscrire à l'image dans le film.
Et vous, justement, Erich Seyri, vous êtes très très loin de ces jeunes femmes. Est-ce que vous vous sentez portée par le même mouvement qu'elles ?
Moi, c'est surtout cette idée que ces filles, elles ont grandi dans le village d'origine de mon père. Mon père a quitté ce village il y a 55 ans maintenant. Et donc, je me suis dit, si j'avais grandi là, si mon père n'était pas parti, si c'était pas venu en France, j'aurais grandi comme elle. Donc, je serais qui ? Je serais Fidèle, je serais Melek, je serais Fethen, enfin, Sana. Et je me suis posé vraiment cette question. Donc, c'est pour ça que je les ai regardées avec beaucoup de tendresse. en disant elles n'ont pas choisi là où elles sont nées, je n'ai pas choisi non plus, et ça a quand même déterminé celle que je suis devenue et celle qu'elles vont devenir. Donc il y avait cette idée de les regarder de cette manière-là, et voilà, mais je ne sais pas.
Et vous, du coup, le rapport que vous avez, vous, Éric Seyri, avec ce... Donc, vous avez tourné dans le village, en tout cas dans la région.
Oui, oui, d'origine de
votre père. Mais vous la connaissez bien, cette région? Vous y alliez régulièrement?
Oui, je la connaissais assez bien. Le foulard que porte Fidet, ce foulard fleuri, qu'on retrouve aussi en Ukraine, d'ailleurs, dans les pays de l'Est, qui est arrivé jusqu'au Maghreb, sont des foulards emblématiques des femmes des campagnes. Aujourd'hui, en Tunisie, c'est un foulard emblématique du combat des femmes des campagnes, dans le sens pour la dignité, pour le travail. Puisqu'elles sont souvent victimes aussi d'accidents de la route. Elles montent dans des pick-up, un peu comme on transporterait des marchandises, parce que c'est des pick-up, des camions de marchandises dans lesquels elles sont transportées pour aller travailler. Et parfois, elles tombent de ces camions. Et c'est devenu ce symbole, ces foulards-là sont devenus ces symboles. Et ma grand-mère portait ce foulard aussi. Donc c'est vrai qu'il y a beaucoup de significations derrière ce choix de la région, du foulard, de ces femmes, de ces jeunes filles.
Et donc, on le disait, Elisabeth le disait en début d'émission, Sous les Figues a déjà fait des tours du festival du monde entier. Tanit d'Argent au JCC, aux Journées cinématographiques de Carthage. Comment il a été perçu? Vous avez vu la réception donc, du film dans différents endroits, mais en Tunisie, j'imagine que l'écho devait être particulier. Comment il a été
reçu? Il est particulier, je pense déjà aussi par cette idée de l'accent, de cet accent-là qu'on entend très peu dans le cinéma tunisien. Mais aussi, je crois que les gens s'attendaient à un film qui brandit un drapeau ou une cause. Ou on a toujours l'habitude aussi de plus en plus que les films arabes doivent porter ça. Et ils étaient intrigués par des scènes, des extraits qu'ils ont vus ou la bande-annonce où ils voyaient la vie et des jeunes gens qui parlent comme eux et des jeunes filles qu'on ne voit pas souvent comme ça dans le cinéma. Donc ça a été assez incroyable ce qui s'est passé en Tunisie, parce que tout le monde allait voir le film. Et ce qui m'a le plus marqué, c'était de voir des jeunes hommes ramener leur maman au cinéma. Franchement, ça fait longtemps que je n'ai pas vu ça.
Et justement, vous parliez d'un certain cinéma tunisien. On a l'impression qu'après la Révolution, les cinéastes sont descendus dans la rue, et peut-être aussi dans la nature, mais que les films sont devenus beaucoup plus... vous parliez d'impressionnisme tout à l'heure, mais beaucoup plus sensuels, beaucoup plus attentifs à la lumière. Je pense entre autres à Leila Bouzid. Oui. Au film de Leila Bouzid, je pense au vôtre. Qu'est-ce qui s'est passé?
Moi, je dirais plutôt des cinémas plus libres. C'est-à-dire que si on regarde tous les cinéastes depuis la Révolution, la nouvelle
génération... C'est ça que je le relie à la Révolution, oui. Ça vous paraît pertinent?
Oui, c'est pertinent, parce qu'il s'est passé quelque chose après. Il y a des genres différents, des esthétiques différentes, une grande liberté de ton.
De genre.
Et de genre, oui. Et c'est assez incroyable, parce que je trouve que c'est un cinéma surprenant. Le cinéma tunisien qu'on retrouve maintenant dans des grands festivals presque chaque année, on peut pas encore identifier ce que c'est le cinéma tunisien encore, mais c'est en train d'aller dans plein de directions différentes, et je pense que c'est parce que il y a une soudaine liberté et une liberté pas juste politique, c'est-à-dire vraiment se libérer nous-mêmes de quelque chose de en tant que cinéaste. Ça, c'est plus compliqué encore, parce que c'est très personnel de pouvoir pas regarder ce qui se passe ailleurs et être vraiment avec soi, et en même temps ne pas sentir qu'on doit porter quelque chose, un message ou expliquer quelque chose.
Un pays, une culture, une cause,
voilà.
Une société.
C'est ça, mais juste faire le cinéma qu'on a envie de faire et faire partie du cinéma mondial et pas d'un cinéma qui serait renfermé dans une région quelconque.
Un cinéma sans bannière.
Oui, oui, oui.
Sous les Figues sort en salle mercredi prochain. C'est un portrait sensuel et cruel de la jeunesse tunisienne d'aujourd'hui. Une gorgée de sève et de soleil pour affronter l'hiver. On vous conseille vivement d'aller le voir. Merci, Erige Seyri.
Merci à vous.
Dans quelques minutes, le journal du cinéma de Sophie Torlotin. Mais avant, on écoute, vous l'avez tous reconnu, hein, ce tube multi-récompensé à Hollywood, c'est Fame. Notre façon de rendre hommage cette semaine à son actrice emblématique, Irène Cara, disparue ce mercredi. Et on passe au journal du cinéma avec vous, Sophie Torlotin. En France, des salles déprogramment Les Amandiers de Valeria Bruni-Tedeschi. Le film fait polémique, mais pas pour son contenu.
Oui, en effet, hein, pas pour le récit du film, mais en raison de l'interprète masculin principal, Sofiane Benacer, mis en examen pour viol. Alors juste pour vous rappeler un peu quand même le film, hein, Les Amandiers, c'est un récit d'apprentissage, une année décisive dans la vie de jeunes acteurs qui ont intégré une école de théâtre d'un genre inédit et éphémère, celle du Théâtre des Amandiers de Nanterre, montée par Patrice Chéreau. Valeria Bruni-Tedeschi reconstitue sa jeunesse et les années 80 avec ce film incandescent sélectionné au Festival de Cannes.
T'es trop belle. Tu m'appelles Étienne.
Aujourd'hui, vous êtes 40. Et à la fin de ce stage, vous serez 12.
Et tous pris, là.
Je m'appelle Pierre Roman et je suis le directeur de l'école. Patrice Chéreau est le directeur du théâtre.
Eh bien.
Alors, Sofiane Benacer, vous avez entendu sa voix, hein, c'est celui qui joue le jeune Étienne. Alors donc, effectivement, Les Amandiers, le souci, ce n'est pas le film, mais le comportement de l'acteur Sofiane Benacer, 25 ans, mis en examen pour viol, violence sexuelle et psychologique, accusation proférée par 4 anciennes compagnes. Les faits se sont déroulés avant le tournage, mais la réalisatrice Valeria Bruni-Tedeschi et les producteurs étaient au courant. Depuis que les quotidiens Le Parisien et Libération ont révélé des éléments de l'enquête en cours, et notamment aussi ont révélé l'omerta qui régnait sur le tournage, les entrées en salle du film se sont effondrées. Les producteurs et la réalisatrice ont beau se défendre, brandir la présomption d'innocence et dénoncer un lynchage médiatique, certains cinémas ont décidé de déprogrammer le film et l'Académie des Césars a retiré le nom de l'acteur, donc Sofiane Benacer, de la liste des espoirs du cinéma français.
Dans un autre registre, la semaine dernière, Sophie, on parlait de Irène Tassin-Bédo. Donc, c'était à propos du festival Ouaga Côté Court qu'elle a créé. Cette fois-ci, c'est la réalisatrice Irène Tassin-Bédo qui est récompensée.
Oui, alors c'est son deuxième film. Hein. La Traversée vient de décrocher le Grand Prix d'Africlap, Festival des cinémas d'Afrique à Toulouse.
Ça m'a foutu une de ces trous.
Heureusement que tu n'as pas fait ça.
Alors, c'est un documentaire, hein, La Traversée, qui suit les traces de Djibi, un jeune homme qui, après avoir travaillé 10 ans en Italie, est rentré au Burkina Faso. Il décide d'entraîner des jeunes de son quartier de Ouaga à entamer donc cette traversée vers l'Europe. C'est une préparation physique et mentale quasi militaire. Mais en secret, Djibi poursuit un autre but, en fait, amener chacun de ses stagiaires à reconsidérer son projet d'avenir et peut-être les faire changer d'avis sur l'immigration.
Enfin, ce n'est pas un film primé, mais deux récompensés ex aequo pour le prix Louis Deluc.
Oui, on dit de ce prix remis chaque année par un collège de critiques que c'est le Goncourt du cinéma. Il a été décerné mercredi à deux films très, mais alors vraiment très différents, chacun dans son genre néanmoins chouchou de la critique. Saint-Omer d'Alice Diop, le procès d'une mère infanticide, et je vous renvoie à notre émission d'il y a deux semaines puisqu'on recevait Alice Diop. C'est le candidat français à l'Oscar du meilleur film étranger. Et puis Pacifiction d'Albert Serra.
Vous êtes conscient que pour le moment ce ne sont que des rumeurs. Moi je n'ai pas la moindre information concrète. Je n'ai aucune certitude.
Regardez comme elle est belle, notre île.
Oh, regarde ça.
Oh, oh mon Dieu.
Oh. Il y a le haut commissaire qui est là, ouais.
Ça fait des sensations, ça me change.
On va pas revenir en 95. Et puis on se prend...
Pacifiction, tourment sur les îles, on entend un extrait de la bande-annonce, met en scène Benoît Magimel, représentant de l'État français en Polynésie, alors que tout Tahiti bruisse de rumeurs d'une reprise des essais nucléaires. Saint-Omer et Pacifiction, Louis Deluc, ex aequo, deux films donc très différents, mais distribués par les films du Losange, qui ont dû, un distributeur qui a dû, on l'imagine, sabrer le champagne. Et puis le prix Louis Deluc du premier film récompense récompense Falcon Lake de Charlotte Lebon, un film qui sort mercredi prochain en salle.
Un film diffusé sur Netflix fait polémique, lui, en Israël.
Oui, c'est depuis jeudi, hein, les abonnés à la plateforme de streaming peuvent regarder Farah, un film du cinéaste jordanien Darin Salam, qui raconte l'histoire d'une jeune palestinienne de 14 ans dont le village est attaqué par des soldats israéliens. Ça se passe pendant la guerre de 1948, hein, une guerre qui a coïncidé avec la création de l'État hébreu.
غالي أروح على المدينة أروح على المدرسة يصير عندي شنطة كشاكير
البنت راسها بالتعليم شو بدي يصير يعني شو هي طالبة راس وحيدي.
Alors ce film jordanien, Farah, dont on vient d'entendre un extrait, avait été présenté au Festival de Toronto l'an dernier. Actuellement, donc, il est diffusé sur Netflix et des ministres israéliens se sont insurgés contre la décision de Netflix de diffuser le film. Alors évidemment, ils ne peuvent rien contre le géant américain. Mais ils s'en prennent au cinéma israélien qui veulent projeter Farah. Avigdor Lieberman, hein, le ministre des Finances du gouvernement sortant, suggère de cesser le versement de fonds publics à un théâtre de Jaffa, qui a projeté Farah mercredi soir.
Et on termine, Sophie, ce journal en Inde. Le Festival international du cinéma de Goa vient de s'achever lundi. Il s'est terminé par une controverse. Alors, plus que pour son palmarès, c'est le discours du président du jury lors de la clôture qui a provoqué un scandale.
Nous avons tous été perturbés et choqués par le film The Kashmir Files, qui nous a semblé être un vulgaire film de propagande, qui n'a pas sa place dans une section de compétition artistique d'un festival si prestigieux.
Nous sommes en ligne avec notre correspondant en Inde, Sébastien Farsi. Quel est ce film dont parle Nadav Lapid ?
The Kashmir File est le long-métrage le plus controversé de l'année. Il est sorti en janvier dernier en Inde et il parle des assassinats ciblés de centaines d'hindous de la région à majorité musulmane du Kashmir, tués par les rebelles indépendantistes islamistes pendant la guerre civile régionale il y a 30 ans. Environ 100 000 autres hindous ont dû alors fuir le Kashmir et très peu sont revenus depuis. Ce sujet est donc très sensible et le réalisateur du film Vivek Agnihotri s'empare du sujet pour en faire un drame manichéen, dans lequel les terroristes sont montrés comme des assassins assoiffés de sang, les autres musulmans comme des informateurs des terroristes et les hindous, eux, des victimes bienveillantes et pieuses. Une description qui a choqué les 5 membres du jury, comme le confie Nadav Lapid, qui nous a accordé une interview. Il justifie la qualification de propagande.
C'est la manipulation de tous les outils cinématographiques, le casting des méchants contre les bons, la manière qu'ils sont filmés, la musique qui accompagne chacun, et les droits à la parole qu'ils reçoivent les uns et les autres. Et ça me paraît un cas explicite. Pour donner l'exemple d'un film de propagande, une chose pareille m'est jamais arrivée. Je faisais partie de à centaines de jurys où j'ai vu dans ces cas-là centaines. J'ai jamais vu un film comme The Kashmir Files.
On vient d'entendre la voix de Nadav Lapid, donc Sébastien Farsi. Ses propos, on l'imagine, hein, ont entraîné de fortes réactions en Inde.
En effet, l'équipe du film a bien sûr défendu son travail. Le réalisateur a publié une vidéo dans laquelle il assure que le script de Kashmir File est basé sur les témoignages de centaines de victimes et que Nadav Lapid a en fait le même but que tous les extrémistes de gauche qui ont critiqué son film, nier l'existence des crimes contre les hindous. Or, Nadav Lapid n'a jamais parlé et encore moins nié cette réalité historique, mais il a commenté la manière de la présenter. Ce qui est différent, critiquer une œuvre ne revient pas à remettre en cause son sujet. Le gouvernement indien est également monté au front. Il a dit regretter la volonté du réalisateur israélien d'utiliser la plateforme du festival pour faire des déclarations politiques. Nadav Lapid répond qu'il a parlé au nom de tous les membres du jury qui avaient le devoir de s'exprimer. On l'écoute.
Si on vous invite, donc on vous invite pas que pour parler du météo, on vous invite à cause de la personne que vous êtes pour vous dire vos opinions. Et je pense que ça fait partie de votre dévotion, de votre obligation aux gens qui vous ont invité. Deuxième chose, j'ai l'impression qu'inclure un film pareil dans la compétition la plus importante du festival, ça humilie le festival.
Cette controverse, en fait, Sébastien Farsi, elle éclaire un vaste tableau et entre autres, elle révèle le contrôle politique du cinéma par les autorités indiennes, non ?
Tout à fait. D'abord, car ce que Nadav Lapid a dit n'est pas une surprise. The Kashmir File est un film politique d'un réalisateur très engagé. Vivek Agnihotri est connu pour ses positions proches du gouvernement nationaliste hindou du BJP. Ce dernier en a d'ailleurs fait une publicité phénoménale, ce qui a contribué au succès du film en salle. Les ministres l'ont promu, les gouvernements régionaux ont exempté de TVA les entrées et organisé des projections gratuites et leurs fonctionnaires ont même eu le droit à des congés pour aller voir le film. Donc dire que Nadav Lapid fait de la politique autour de ce long métrage est ironique. Cela arrive surtout au moment où le gouvernement indien lui-même renforçait son emprise politique sur le cinéma. Ce festival de Goa est par exemple complètement dirigé et organisé par le ministère de la Culture qui maîtrise donc tout son contenu. Et cette mainmise s'étend à tous les aspects du cinéma. Depuis qu'en mars dernier, le gouvernement a rassemblé sous une même tutelle publique le service des archives cinématographiques de la formation des films pour enfants et de l'organisation des festivals. Pour le gouvernement indien, le cinéma est donc plus que jamais une arme d'influence des esprits.
C'est donc en Inde que se terminent tous les cinémas du monde cette semaine avec au micro Sophie Torlotin
et Elisabeth Le Quéré, à la réalisation Fanny Renard.
Rendez-vous la semaine prochaine avec Rachid Bouchareb qui nous parlera de son nouveau film Nos Frangins. Et d'ici là, bonne semaine à tous.
Cinéma du monde.